RCF.
On poursuit toute cette semaine avec le père Édouard d'Ivry, dominicain de la province de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Madeleine et bonjour à tous.
Alors dans votre ouvrage qui s'intitule « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église » publié aux éditions Arthège, vous dites que de nombreuses controverses sont nées dans l'Église en raison de l'accroissement massif de populations musulmanes en terres traditionnellement chrétiennes. Alors vous mettez les pieds dans le plat, mais de quelles controverses vous voulez parler précisément ?
Eh bien, les controverses sont nées de par les différents textes du Concile Vatican II sur les grandes religions. L'expression « grandes religions » et leurs bienfaits dans Nostra Aetate, qui est une déclaration du Concile Vatican II, exprime eh bien, les valeurs, les structures que l'on peut trouver dans ces religions qui aident l'homme à cheminer ici-bas. Et de ce point de vue-là, il y a eu un regard d'intérêt vis-à-vis du bouddhisme, vis-à-vis de la religion de l'islam, vis-à-vis des grandes familles religieuses du monde, et en particulier le judaïsme, qui à lui seul fait l'essentiel de ce texte avec le numéro 4 pour lequel le pape Jean XXIII avait voulu explicitement un texte de réconciliation par rapport aux juifs qu'il avait tant aidé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette attention à l'autre, aux autres, a pu susciter des questionnements de se dire est-ce que ces religions ne seraient pas par elles-mêmes porteuses de vérité au point qu'elles seraient une aide pour le salut de chacun. Si vous voulez. Est-ce qu'il n'y aurait pas des structures de salut, dans le fond, un peu réparties au-delà des frontières du christianisme ? Et c'est ce débat-là qui a été fortement donc, développé ces dernières années. Et le texte, finalement, qui a tranché, si vous voulez, un petit peu par rapport à ces débats, c'est en l'an 2000, donc il y avait une date un peu symbolique, vous voulez, l'entrée dans le troisième millénaire, le 6 août, en plus, le jour de la Transfiguration, il y a eu un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a été mise en forme spécifique, c'est-à-dire estampillée par le pape lui-même. Et donc, du coup, ça prend une valeur vraiment magistérielle, doctrinale.
Quand on parlait de la vérité précédemment. Oui.
Et ce texte donc, a montré qu'il fallait considérer toujours qu'il n'y avait qu'un seul sauveur, c'était Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus dans Saint Jean chapitre 15 ou dans les Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'autre nom par lequel vous puissiez être sauvés. Et cet exclusivisme, je dirais, de la réalité de l'Église n'empêchait pas qu'il y ait des individus aidés peut-être par les structures religieuses qui les portent, qui seraient orientés vers l'Église et qui serait orienté vers la possibilité donc de recevoir la grâce, moyennant bien sûr une adhésion à Dieu et une adhésion à la certitude que Dieu existe et qu'il se fait le rémunérateur de tous. Je fais écho à Hébreux 11, 6, qui est un passage très important des Écritures sur ce dialogue entre le monde et l'Église.
Alors de la même manière que vous le faites pour d'autres controverses, où vous dites qu'à la fois elles viennent bousculer l'Église, mais elles aident aussi l'Église elle-même à se déterminer, en tout cas à discerner pour avancer dans ses positions. Vous le dites aussi à propos de l'islam, et vous dites que c'est un véritable défi spirituel pour une partie de la population française. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ce que je veux dire, c'est que, comme le disait le grand Bossuet qui a marqué le XVIIe siècle, la vérité demeure toujours dans l'Église et s'y épure d'autant plus qu'elle est plus violemment attaquée. C'est frappant. Hein, vous voyez ce sens des controverses qu'avait Bossuet.
On est au XVIIe siècle.
On est au XVIIe siècle. C'est quand même extraordinaire. J'aurais pu le prendre comme intitulé, si vous voulez, souvent on met une petite phrase au début d'un livre, en exergue, etc. J'aurais pu prendre celui-là. Mais c'est vrai que l'islam nous oblige à nous positionner sur bien des sujets, sur l'unique révélation, sur la réalité de qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est seulement un prophète ? qui est Marie? Est-ce que Marie, dans l'islam, c'est seulement la sœur de Moïse, ou est-ce que c'est des siècles après, à l'époque de Joseph, à l'époque d'Hérode, à l'époque de Pilate, un tout autre personnage? Vous voyez, le Marie de l'islam, c'est une Marie qui est contemporaine de Moïse, donc ça n'a plus rien à voir. Abraham est l'auteur de la Kaaba. Il a construit la Kaaba et c'est totalement divergent par rapport à nos écritures. Donc ça pose beaucoup de problématiques, de confrontations, si vous voulez. Et ça nous aide à revenir dans nos propres sources. Ça nous aide à chercher quelle est la vérité et comment cette révélation est porteuse de salut. C'est finalement ça l'essentiel. C'est pas seulement, vous voyez, trouver une expression qui soit la plus juste possible, c'est en même temps toujours recueillir dans les cœurs un besoin de salut. L'écriture est là pour nous féconder, pour nous transformer, nous guérir, nous porter à la lumière.
Mais est-ce qu'en raison peut-être d'une certaine peur, on ne développe pas une espèce de naïveté sur cette question sans vouloir justement aller au-delà et aller se jeter, on pourrait dire, dans la recherche intellectuelle? Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on est appelé aujourd'hui justement?
C'est vrai que le Concile Vatican II demande, par exemple dans le dialogue œcuménique, de ne pas l'aborder avec naïveté. Eh bien, mutatis,
c'est un terme utilisé.
Oui, hein. Tout à fait. Dans mutatis mutandi, c'est-à-dire en changeant ce qui doit changer au niveau interreligieux, on peut dire la même chose. Il ne faut pas aller dans le dialogue interreligieux avec naïveté, sans connaissance approfondie. Je vous rappelle que les premiers qui ont traduit le Coran, eh bien, c'est Pierre le Vénérable à l'époque de Saint Bernard, justement pour mieux comprendre ceux qu'ils allaient rencontrer en Terre Sainte et ailleurs, pour pouvoir voir ce qui était faux de ce qui était vrai. Car il y avait dans ces peuples du Moyen-Orient une grande attitude de respect de la nature, de respect de la loi naturelle, et qui est tout à fait porteuse. Il ne faut pas oublier que dans certains cas, à l'époque du planning familial en Égypte ou ailleurs, les seuls qui ont voté avec le Vatican pour défendre la position sur la vie, la culture de la vie par rapport à la culture de la mort, ce sont tous les pays arabes qui ont voté comme le Vatican. Et donc il faut être prudent, si vous voulez, de ne pas tout noircir ou tout sacraliser. Et donc il y a un discernement, une fois de plus, nous l'évoquions dans la première émission, à réaliser, un crinègne, comme dit l'Écriture, pour rejeter ce qui est faux et garder ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est porteur. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, mais c'est vrai que je ne fais jamais l'équation qui permettrait de dire qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. L'islamisme, c'est un développement tout à fait naturel de l'islam.
Alors ça, c'est parfois remis en cause, en tout cas c'est questionné.
Alors c'est questionné, mais si vous voulez, si vous lisez à la lettre le Coran à la manière hanbalite, c'est-à-dire la quatrième école du fiqh, du droit musulman, ben vous voyez qu'il faut appliquer le Coran à la lettre. Quand vous êtes dans une autre structure, les trois autres structures, il y a plus d'échappatoires, mais quand vous êtes vraiment hanbalite, et actuellement les wahhabites en Arabie Saoudite sont tous des hanbalites, eh bien il faut appliquer le Coran strictement, littéralement.
Mais c'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le fondamentalisme.
Alors, on appelle ça le fondamentalisme, mais tous ces mots ont été inventés au moment des Lumières, et donc ça n'a rien à voir avec les sources ni coraniques, ni chrétiennes. C'est une idée de l'illuminisme, c'est une idée de Voltaire, de Rousseau, de tous ces grands courants de l'époque qui ont fait l'encyclopédie avec Diderot, etc. Mais ces mots sont piégés parce que par derrière, il y a l'idée d'une religion naturelle, si vous voulez. Or, cette religion naturelle, moi, je ne l'ai jamais trouvée, même chez les animistes en Afrique. Donc, il faut être très, très prudent parce que nous véhiculons parfois tout un vocabulaire dont nous ne savons même plus d'où il vient, comme le mot monothéisme. Vous croyez qu'il existe des monothéismes? C'est un mot inventé par l'illuminisme. C'est un mot dans lequel on dit un seul Dieu. Mais monos, en grec, peut dire un seul solitaire, et c'est l'islam, ou un seul dans la communion, et c'est le christianisme. Donc le mot est piégé, si vous voulez, puisque ça n'a pas du tout la même signification.
Ça fait d'ailleurs partie de la vigilance que vous avez justement à propos des controverses, c'est-à-dire que certaines naissent parfois justement des mots et des expressions qui sont utilisées et qui conduisent peut-être parfois des raccourcis et qui mènent à une discussion là où finalement peut-être on devrait détailler certains mots.
Oui, oui. Albert Camus disait qu'on ajoutait au malheur du monde lorsqu'on ne désignait pas clairement un mal. On trouve ça déjà chez Platon dans ses dialogues. C'est une des grandes constances là où c'est Confucius en Asie, l'importance de bien appeler les choses par leur nom pour éviter des simplismes, des syncrétismes, des idéologies, des erreurs. Et c'est là où la vigilance de l'Église est appelée sans cesse à contribuer avec l'effort de tous. Nous ne nous considérons pas au-dessus des autres, mais la vérité, d'où qu'elle vienne, dira Saint Thomas d'Aquin à la suite de l'Ambrosiastère, vient de l'Esprit-Saint. C'est très beau cette expression.
Est-ce que vous auriez un exemple d'un terme qu'utilise l'Église aujourd'hui et qui n'est pas compris comme tel par la société ?
Oui, je pense que le mot « dignité », que vous voyez utilisé un peu à tort et à travers, comme « mourir dans la dignité du mariage pour tous », etc., ce sont des mots piégés parce qu'il y a une double dignité dans la tradition chrétienne, la dignité d'origine, la dignité de la nature humaine et puis la dignité des actes posés par cette nature humaine. Saint Thomas l'a défini ainsi. La dignité signifie la bonté d'une réalité en raison d'elle-même par rapport à l'utilité qui est seulement en vue du bien d'un autre. Et cette définition de la dignité s'adapte à la fois à la nature humaine créée à l'image et ressemblance de Dieu, qui est la plus grande des dignités, qui est indépassable. Même quelqu'un qui va vers le mal garde cette dignité. Par contre, il perd la dignité de ses actes parce qu'il commet le mal, il se dégrade, si vous voulez. Et comme on fait la confusion de ces deux dignités, on n'arrive plus à dire où est le pécheur et où est le péché. Et ça, c'est dramatique.
Mais merci beaucoup, Père Édouard d'Ivry. Je rappelle que vous êtes prêtre, théologien et dominicain de la province de Toulouse. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église, publié aux éditions Artege. Merci beaucoup.